les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Les rites, les religions, l'art ne feraient-ils rien d'autre que de conjurer l'abjection, cet état d'incertitude sur l'identité du même et de l'autre? Telle est la question à laquelle répond la psychanalyste et écrivain Julia Kristeva dans son livre « Pouvoir de l'horreur, essai sur l'abjection » paru au Seuil en 1980 et réédité en poche en 1983. Ce livre est très représentatif des thématiques déployées dans ses travaux par Julia Kristeva depuis ses tout premiers livres jusqu'à aujourd'hui. Le sujet, la langue, l'art, la fonction des religions et le sacré, le continent maternel, etc. Cet entretien, accordé à Gilles Lapouge au moment de la sortie du livre, permet de saisir la profonde originalité de cette pensée.
Agora, par Gilles Lapouge, avec Julia Kristeva, Pouvoir de l'horreur.
Il y a dans l'abjection une de ces violentes et obscures révoltes de l'être contre ce qui le menace et qui lui paraît venir d'un dehors ou d'un dedans exorbitant, jeté à côté du possible, du tolérable, du pensable. C'est là, tout près, mais inassimilable. Ça sollicite, inquiète, fascine le désir qui pourtant ne se laisse pas séduire. Apeuré, il se détourne. Écœuré, il rejette. Un absolu le protège de l'opprobre, il en est fier, il y tient. Mais en même temps, quand même, cet élan, ce spasme, ce saut est attiré vers un ailleurs aussi tentant que condamné. Inlassablement, comme un boomerang indomptable, un pôle d'appel et de répulsion, met celui qui en est habité littéralement hors de lui.
Abjection, horreur, écœurement, cela, tout cela, ça fait de bien grands mots. Non, pas des gros mots, mais des grands mots qui sont inquiétants, qui peuvent faire imaginer un livre sinistre ou un livre morbide ou un livre complaisant. Or, rien de tel, il me semble, en tout cas à ma lecture de ce livre, de ce beau livre de Julia Kristeva qui s'appelle « Pouvoir de l'horreur » et dont le sous-titre est « Essai sur l'abjection » et qui est publié aux éditions du Seuil. Donc, pour moi, c'est plutôt un livre, non pas complaisant, mais un livre violent, violent en ce qu'il affronte l'inaffrontable, qui est précisément cette abjection, en ce qui nous entraîne un peu sur les bords du dicible, sur les bords du nommable. Et c'est peut-être quand même au début de cette émission, pour que tout ce que nous dirons après soit placé, qu'il faudrait faire un effort pour définir l'abjection, qui est probablement l'indéfinissable, ce qui fait que c'est très difficile de définir.
Oui, je crois que on peut essayer de définir ce mot en partant de l'adjectif abject et en essayant de l'entendre par rapport aux deux oppositions bien connues, enfin l'opposition bien connue entre sujet et objet. Sujet-objet, ça suppose des identités fixes. Je et puis un autre de haine, de désir éventuellement. Alors que l'abject, c'est ni l'un ni l'autre.
C'est-à-dire c'est entre le sujet et l'objet.
C'est entre le sujet et l'objet, et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas encore, il n'y a plus de sujet et d'objet. C'est ce qui fait que la limite qui les sépare a été mise en cause. C'est une crise d'identité. Je crois que c'est la façon la plus précise et peut-être la plus laconique de le définir. Et plus loin, est abject ce qui, tout en étant en dehors de moi, mais proche, tout en m'étant répugnant, peut me fasciner, et c'est en cela qu'il me concerne, mais je ne l'assume pas. C'est quelque chose qui me met, comme je disais tout à l'heure, hors de moi. Parce que je pourrais en être l'objet, mais je ne le suis pas. Si ça m'était complètement indifférent, ce serait un objet externe. Mais ce n'est pas le cas.
Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas dire cela de tout objet fascinant que à la fois il attire et il repousse ?
Il y a de la fascination dans l'objection. Mais je crois que avec le terme d'objection, nous sommes plus proches de l'effondrement de la nomination, comme vous disiez tout à l'heure. Le fasciné et le fascinable est déjà une mise en signe de l'objection. Je pense que, par exemple, l'art fascinant traite de l'abject. Il est ce qui raconte, ce qui met en son, en musique, en peinture, en littérature. Il y a un côtoiement permanent entre l'abjection et ce qu'on appelle le plaisir esthétique, qui est un plaisir damné.
Est-ce que ce n'est pas le sauvetage ou la perversion, si on peut dire, de l'abjection, ça ?
Peut-être, oui. Je pense qu'il y a aussi un bord à bord entre l'art et la perversion. C'est pourquoi ce sont des régions, en effet, qu'on est tenté d'écarter, alors que je pense qu'il faut les regarder en face, sans quoi on passe à côté d'expériences vitales fondamentales, quand on ne laisse pas au sacré de les récupérer.
Bien, avant d'entrer davantage dans votre travail, je crois qu'on peut peut-être quand même donner quelques images de l'abjection. Mais ces images, j'ai l'impression qu'elles sont innombrables et qu'elles sont variables, non ? Parce que vous, vous dites, par exemple, ça peut être la peau du lait, là, cette petite peau qui est sur le lait.
Oui.
Moi, je dirais peut-être la glaire de l'œuf. Je ne sais pas si vous accepteriez cela. Le cadavre, bon, alors là, c'est beaucoup plus évident, universel. Mais est-ce que, par exemple, le loup dans la forêt ou l'idée du loup dans la forêt, c'est de l'abjection ? Parce que c'est à la limite de l'objet aussi. C'est de l'ordre de l'innommable, par exemple.
Je peux imaginer un enfant pour lequel le loup, dans ce qu'il a de flou, peut être de l'ordre de l'abjection. Mais dans notre imaginaire d'adulte, c'est quelque chose qui a plus de contours, un loup. Tandis que ce que je voulais dire à travers l'abjection et ces exemples de la peau du lait ou la glaire de l'œuf, c'est l'entre-deux. C'est ce qui ne cadre pas avec une identité précise. Et les exemples que j'ai trouvés au début du livre sont en effet des exemples qui tombent sous les sens, mais dont la signification est de présenter quelque chose qui a pu être une imposition de la part de gens qui nous ont entourés. Par exemple, la peau du lait, ça peut être le désir des parents qui poussent un enfant à manger ou à boire. Et l'enfant, ne pouvant pas s'opposer contre ces objets que sont les parents, se fixe de manière plus ou moins hallucinatoire sur cet entre-deux qui représente de manière tout à fait floue, en effet, pas directement consciente, mais qui met en cause aussi l'inconscient, mais on n'entrera pas ici dans cette technique, qui représente cette loi, cette identité parentale contre laquelle il est en révolte et qui, puisqu'il est en révolte, le met, lui, hors de lui-même. Il peut vomir ses entrailles, il peut devenir abject lui-même, aller jusqu'à la mort pour donner lieu à cette révolte. Mais son vomissement, aussi bien que cette peau de lait qui le sollicite, est ce lieu de crise d'identité, ce lieu de crise subjective.
Et donc, pour vivre, il faudrait sans arrêt écarter, d'une certaine manière, cet abject ou ce déchet, cette perte, en fait.
Je pense, oui, aussi bien sur le plan de l'individu que sur le plan des sociétés. Je crois que nous ne sommes des êtres parlants qu'en tant qu'ayant assumé une identité. Or, pour que je sois moi-même, pour que je sois identique, il faut que j'écarte précisément ce flou, cet entre-deux qui me met en état d'effervescence vis-à-vis de l'autre. D'où tous les problèmes d'abjection qu'on rencontre, non seulement dans les cures d'hystérie qu'on peut entendre sur les divans, mais aussi et surtout dans quelque chose qui est récent dans la pratique analytique et qu'on appelle les borderline, c'est-à-dire des sujets les qui limites. Ne sont des cas limites, en effet, qui ne sont ni psychotiques ni névrotiques, mais entre deux, et pour lesquels la question d'un objet de désir est encore de l'ordre de l'impossible. Eh bien, dans le transfert, avant d'arriver à cet objet de désir, qui peut être aussi un objet de haine, ces patients-là passent par un violent envahissement, par l'abjection, qui est une façon de poser des limites, de se poser des limites, de définir l'heure dedans et l'heure dehors, avant d'arriver à placer un objet.
Donc, ça serait avant, comment dirais-je, ils éprouveraient une difficulté à définir, par exemple, l'heure dedans ou l'heure dehors, et j'imagine eux et les autres, puisque c'est aussi le dedans et le dehors, avant même qu'on en arrive au stade du conscient et de l'inconscient.
C'est une espèce Je crois que c'est une autre organisation et qui concerne, selon la terminologie freudienne, le narcissisme primaire, c'est-à-dire chronologiquement ou logiquement quelque chose de très archaïque dans l'organisation de l'identité et qui finalement confronte l'être parlant à sa mère. Avant l'entrée dans l'Édipe où, grâce à la triangulation et à l'instance paternelle, une identité plus ou moins fixe sera constituée et la fonction de la nomination, le fait de se référer à des objets extérieurs qui seraient des objets de désir pourra avoir lieu. Donc nous sommes là avec l'abjection dans la région du narcissisme primaire, d'une crise d'une identité et de l'affrontement avec la mère. Alors ce que je crois intéressant, et c'est ce que ces patients borderline nous ont montré, c'est que c'est ce narcissisme primaire qui généralement, ou l'idée même de narcissisme dans l'opinion publique, est quelque chose de paradisiaque, une sorte d'étreinte heureuse avec un continent maternel fusionnel, et plutôt une guerre. Une guerre violente de séparation, de rejet, d'abjection.
Et cette abjection, alors vous ne vous bornez pas, bien que vous soyez psychanalyste, à en traiter en tant que psychanalyste. Il y a aussi tout un autre chapitre, beaucoup d'autres chapitres d'ailleurs, en particulier sur la relation entre l'abjection et les religions, et le sacré plutôt que les religions. Hein. Les religions faisant partie du sacré.
Oui.
Là, alors c'est quand même très très intéressant parce que c'est aussi une histoire des cultures à travers l'abjection. C'est-à-dire, il y a les religions païennes qui déjà sont alertées sur l'abjection.
Oui, comme on disait tout à l'heure, cette question de la séparation, de la constitution d'une identité, concerne aussi bien l'individu que les sociétés. Et le structuralisme a bien mis en évidence le fait que toutes les sociétés sont des systèmes d'échange. Seulement, pour qu'on échange, il faut qu'il y ait des entités à échanger, il faut qu'il y ait des individualités constituées. Et on peut se demander qu'est-ce qui constitue ces identités, où passe la ligne de démarcation, où des petits ensembles vont se former pour qu'ils puissent être échangés. Et je pense que c'est le rôle des religions, du moins dans les sociétés telles qu'on les connaît, de mettre les limites, de constituer les limites pour former un ensemble social. Un ensemble social se forme en excluant ce qui n'en fait pas partie. Et à partir de là, dans cet enclos, il y aura des discrétions, c'est-à-dire des identités qui vont être permutées, changées pour former une logique, une morale, etc. Et on peut suivre cette logique de l'exclusion tout au long de l'histoire de l'humanité dans différentes religions. Moi, je n'ai pris que trois pour illustrer ma pensée, on peut en prendre d'autres. D'une part, ce que vous venez de dire, les religions païennes, ensuite la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et en ce qui concerne le paganisme, si on peut dire ça rapidement, je pensais essentiellement à des sociétés dites sauvages, et en particulier des sociétés dans lesquelles des relations de filiation matrilinéaire ou matrilocale sont prépondérantes. Ce qui voudrait dire qu'il y a une certaine prépondérance d'un pouvoir maternel, même si il y a toujours un pouvoir masculin, ne serait-ce qu'à travers l'oncle maternel. Eh bien, dans ces sociétés-là, on a l'impression que pour se protéger de ce pouvoir sous-jacent, la société abjecte du féminin. Et ce féminin qui est abjecté est de l'ordre des substances qui doivent connoter la féminité, notamment la fertilité, c'est-à-dire les menstrues, les règles.
Ça se retrouve à peu près partout, non ? Même en dehors du monde strictement païen.
Ça se retrouve partout, mais peut-être que si on poursuit tout à l'heure l'histoire du monothéisme, on voit que ça prend différentes formes. Alors que dans ces religions, ou dans ces rites auxquels je faisais allusion au début de ce livre, l'affrontement de l'abjection féminine est direct. évidente, explicite. Après, ça prend des formes plus enrobées.
Par exemple, dans la Bible.
Dans la Bible, alors là, je me suis occupée de ce qu'on appelle les abominations lévitiques, c'est-à-dire d'un chapitre de la Bible où ce qui est abjecté, ce qui est dégoûtant, ce sont des aliments. Tout le monde connaît certains interdits judaïques de nourriture. Eh bien, je démontre, en me basant sur des travaux d'anthropologues, qu'il ne s'agit pas de hasard ni d'aberration, mais que ces interdits forment toute une logique très particulière et qui repose sur deux ou trois choses intéressantes. D'abord, sur le fait que ce dont on se sépare, ce vers quoi convergent tous ces aliments, c'est encore et toujours cette instance maternelle. Il y a un chapitre intéressant, je crois que c'est le 12e du Lévitique, qui tout à coup met en scène, à travers tous ces interdits alimentaires, une accouchée. Et là, on a l'air de cracher le morceau, si on peut dire, de donner le fin nom de l'énigme. D'autre part, et ça c'est très intéressant, je crois, dans ma démonstration, ces logiques de séparation, d'abjection, on ne mangera pas ceci, on ne mangera pas cela, sont en fait une façon de répondre à l'interdit fondamental qui est « tu ne tueras pas ». Et ce qui m'est apparu, c'est que plus un code religieux multiplie les séparations et les abjections, moins il est sacrificiel. Comme si la logique de l'abjection remplaçait la logique du meurtre. Et la Bible est magistrale pour ça. C'est pourquoi je pense qu'à travers le monothéisme juif, nous nous acheminons vers un achèvement de la religion comme fondée sur le sacrifice. On ne nous dit pas qu'il faut être fasciné devant la victime sacrifiée. On nous dit qu'il y a de l'objet abject dont il faut se séparer. Et c'est le début de la morale.
Mais alors, ce qui m'épate un petit peu dans votre passage sur la Bible, c'est que vous semblez dire au fond que toutes ces règles, en particulier les règles alimentaires, les règles de purification, etc., visent à séparer le pur de l'impur. Donc à se sauver de l'abject. Mais moi, je pensais que l'abject, c'était encore avant qu'on puisse nommer le pur et l'impur, si vous voulez. Je croyais que c'était encore plus informe que cela. Le pur et l'impur, ça me paraît déjà des catégories très évoluées.
Tout à fait. C'est une sorte de répercussion de cette logique archaïque dans un système que nous appelons, de manière un peu trop technique, taxinomique. Oui. C'est-à-dire que dans les monothéismes, et à partir du plus grand et le plus fondamental, le judaïsme, il y a une mise en place d'une instance symbolique, qui est l'instance du Dieu un. Et c'est lui qui va pouvoir nommer, y compris cet innommable. La trace du fait qu'il est innommable sera le rejet. On ne dira pas « ça se nomme pas », on dira « ça sera exclu ». Donc c'est une certaine façon de récupérer l'innommable. Mais en même temps, ça a des avantages, et en particulier la fin du sacrifice. Donc on peut pousser l'analyse plus loin, mais je pense que nous touchons à partir de cette entrée à travers l'abjection dans le judaïsme, une ambiguïté extrêmement intéressante de cette religion comme de l'ensemble du monothéisme. Il y a des récupérations, mais il y a un ordre moral qui s'enchaîne, il y a la logique de la loi, il y a la logique du droit.
Ça. Et alors, bon, le Nouveau Testament, ça serait l'intériorisation, d'une certaine manière, de cette logique.
Oui, il y a une fameuse phrase qui se trouve chez Marc et chez Matthieu, et qui dit « est sale non pas ce qui entre dans la bouche de l'homme, mais ce qui en sort ». Autrement dit, c'est pas tellement une intériorité physique et organique que la parole, ce qu'on pense, ce qu'on dit. Et on peut pousser plus loin cette analyse de l'intériorisation de l'abjection, qui passe d'ailleurs par une certaine réconciliation avec le maternel et le féminin. Ce qui est intéressant, c'est que juste avant ces phrases que je viens de citer de Matthieu et de Marc, il y a une séquence où une femme se plaint du fait que sa fille est possédée, et ce que le Christ lui dit, c'est qu'il faut la rassasier pour commencer. Donc il y a une réparation de la relation filiale originelle, imaginaire qui fait que l'abjection ne sera pas une substance, elle sera intériorisée sur un plan plus mental, plus intellectuel si on peut. Et puis il y a un autre aspect qui est assez intéressant, qui va nous conduire à l'art, qui est finalement le but final de ce livre, qui est la notion de péché chrétien. C'est-à-dire que l'abject, c'est évidemment un péché, mais il suffit que je l'énonce avec un contrat vis-à-vis du Dieu pour qu'il puisse être relevé, pour que je puisse en être exaucé. Et il y a là une perversion magistrale, et en même temps un double destin qui s'ouvre, le destin inquisitoire de l'Église, puisque j'énonce mon péché, je m'expose à la brimade, mais en même temps, l'autre versant, c'est la jubilation, c'est la felix culpa. Plus j'en parle, plus j'en suis heureux, et plus j'ouvre les églises à l'art, à la musique et à la peinture, qui vont raconter tous les enfers possibles et imaginables, mais en couleur, en son, un envoûtement et avec une certaine catharsis qui a duré pendant 2000 ans et qui est en crise actuellement.
Oui, avec quand même en ce qui concerne l'art une modification, une transformation toute récente depuis que précisément ni les religions traditionnelles ni les religions monothéistes n'ont la même puissance. Depuis 100 ans finalement, l'art frôle de plus en plus et presque se barbouille des domaines de l'objection.
Absolument, parce que nous n'avons plus dans notre monde moderne cette croyance dans cette instance une Dieu judaïque ou chrétien qui va nous séparer devant à travers lesquels on peut se protéger de l'abject. Donc soit nous censurons ce problème-là, il n'y a pas d'abject, notre monde est un monde de déchets mais aseptisé, donc c'est la sécurité sociale et la médecine qui s'en occupe, et moi je ne suis pas concernée en tant qu'individu, soit on cherche une réponse, disons, laïque à cette problématique-là de crise d'identité. Et la réponse laïque qui me paraît la plus intéressante, c'est celle de l'art. Puisque, à travers un remaniement extraordinaire du langage, d'une part, mais aussi de tous les thèmes qui vont le plus loin possible dans les fantasmes archaïques des uns et des autres, de notre confrontation avec nos démons nocturnes, avec nos parents, avec nos loups dont vous parliez tout à l'heure, nous arrivons à mettre ça au clair, et donc non pas à nous en purifier, parce qu'il n'y a plus de purification possible, il n'y a pas un Dieu qui va nous remettre tous ces cauchemars, mais à une sorte de renaissance et de continuation à travers une identité éclatée. C'est ça que à quoi l'art convoque.
Oui, chacun ayant un autre son objet et puis sa manière, sa stratégie de l'abjection aussi. Mm-hmm. C'est-à-dire que de Dostoïevski à Proust, puisque vous citez ces deux-là, mais Joyce aussi, Borges, Artaud, ça change quand même. C'est modulé différemment à chaque fois.
Oui. Moi, j'ai pris quelques exemples, en effet, Dostoïevski, Borges, Artaud. On peut prendre même la Nausée de Sartre. Il y a Georges Bataille qui est un maître en la matière. Céline pousse cette problématique à son comble.
Il y a de longs chapitres sur Céline, hein, il faut dire. Oui. Moi, j'aurais pensé à Benito Cereno, vous voyez cette thèse de Melville,
bien sûr,
qui paraît
tout à
être
fait.
Vraiment au cœur même
je suis tout à fait d'accord,
la problématique.
Oui.
L'abjection. Borges, il y a un très beau texte que vous publiez. Alors là, on arrive presque à l'objection sociale, enfin, à l'abjection sociale, c'est-à-dire, il montre comment... Enfin, pour vous, l'abjection, parce qu'elle a aussi un sens social, on n'a pas trop parlé,
oui.
Éthique presque. C'est la trahison à l'intérieur de... Comment dire, c'est la fausse innocence plutôt.
Oui, j'ai parlé un peu de l'aspect moral de l'abjection. C'est la traîtrise, c'est le jeu pervers avec la loi, c'est le nazisme quand il feint de s'intéresser au progrès ou de jouer avec la science. Je pense qu'il peut y avoir de la grandeur dans le cynisme, mais pas, ou dans la violence, mais pas dans ce louvoiement. Avec la loi et les seuls garde-fous par rapport à cette tentation de sombrer dans l'abjection en dehors de la religion qui nous a quittés, c'est peut-être une certaine façon littéraire d'en traiter, c'est-à-dire de s'enfoncer le plus loin possible et de garder ses distances à travers le langage, le style, sans Dieu possible, et comme dit Céline, et pour que rien d'autre n'existe.
Bien, Julia Kristeva, je vous remercie. Je rappelle le titre du livre, c'est « Pouvoir de l'horreur », pouvoir au pluriel, « Pouvoir de l'horreur », essai sur l'abjection et publié dans la collection telle quelle aux éditions du Seuil. dans une nuit sans image, mais secouée de son noir. Dans une foule de corps déserts qu'habitait la seule envie de durer contre tout et rien. Sur une page où je traçais la torsade de ceux qui, de leur vide, me faisaient cadeau dans le transfert, j'ai nommé l'abjection. En traversant une mémoire millénaire, fiction privée d'objectifs scientifiques mais qui suit l'imaginaire des religions, c'est en littérature que je l'ai finalement vu réaliser avec son horreur tout son pouvoir. À y regarder de près, toute littérature est probablement une version de cet apocalypse qui me paraît s'enraciner, quelles qu'en soient les conditions socio-historiques, dans la frontière fragile où les identités, sujets, objets, etc., ne sont pas ou ne sont qu'à peine doubles, floues, hétérogènes, animales, métamorphosées, altérées, abjectes.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 20 juin 1980.
For heaven's sake, let's fall in love. It's no mistake to call it love. An angel's holding hands with me. How heavenly heaven can be. Here is romance for us to try. Here is the chance deny. While heaven's giving us the break, let's fall in love. For heaven's sake, don't say a word, my darling. Don't break a spell like this. Hold me tight. We're alone in the night, and heaven is here in a kiss. This pair of eyes can see a star, so paradise can't be so far. Since heaven's what we're dreaming of, for heaven's sake, let's fall in love. Don't say a word, my darling. Don't break a spell like this. Just hold me tight. This pair of eyes can see a star, so paradise can't be so far. Since heaven's what we're dreaming of, for heaven's sake, let's fall in love.